et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un dilemme que je retrouve souvent chez les entrepreneurs. Est-ce que je dois créer une seule offre, une unique offre, une offre signature, ou est-ce que je dois créer plusieurs offres, donc suite d'offres, catalogue d'offres, écosystème d'offres? Je vais revenir sur ces définitions justement aussi dans l'épisode. En tout cas, c'est vrai que ça m'a donné envie de créer un épisode un petit peu dilemme business, et d'ailleurs je pense que je vais en faire une série. Donc s'il y a d'autres sujets comme ça où tu hésites entre choisir telle stratégie ou telle autre par exemple, eh bien je serais ravie voilà de faire un nouvel épisode dilemme business. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer sur cette question-là, avoir une seule offre unique ou avoir plusieurs petites offres ou plusieurs offres. Alors de mon côté, j'ai fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 4 ans avec une offre unique, donc forcément je vais aussi parler de mon prisme et donner mon avis dans cet épisode, même si au demeurant je vais aussi t'expliquer sur quoi poser ton intention pour faire des choix judicieux par rapport à ce que tu veux développer, là où tu veux aller, etc. C'est tout l'objet de cet épisode. Mais c'est vrai que j'ai développé mon business, connu l'hypercroissance avec une offre unique, une offre qui m'a permis une belle rentabilité d'un côté et qui m'a aussi permis d'avoir beaucoup de temps pour moi. Mais il y a des exemples aussi d'entrepreneurs qui ont su développer leur chiffre d'affaires avec de leur côté un beau catalogue d'offres. Alors, toute la question, c'est est-ce qu'il y a une stratégie mieux qu'une autre? Est-ce que il y a un ordre pour faire les choses? Est-ce qu'il y a des critères ou des paramètres à prendre en compte pour faire son choix? Donc voilà, moi, ce que je souhaite avec cet épisode-là, c'est t'apporter de la clarté sur tout ça, pour que tu saches peut-être quelle décision prendre pour toi, comment choisir, quelle stratégie poursuivre pour toi et pour ton business. Donc, on va lever le voile ensemble sur ce dilemme pour que tu ressortes de cet épisode, en tout cas en ayant compris les différences entre une offre unique ou plusieurs offres, et que tu puisses identifier le bon choix stratégique pour toi. Avant de rentrer en quelque sorte dans le vif du sujet, je voudrais quand même revenir sur la définition de certains concepts parce qu'il peut y avoir confusion entre suite d'offres, catalogue d'offres, écosystème d'offres, pyramide d'offres. Bon, l'offre unique, du coup, c'est beaucoup plus clair. Donc, j'aimerais peut-être revenir sur la définition, selon moi, de chacun de ces termes, même si je pense que dans l'essence, ce qu'il faut retenir, c'est que offre unique, je pense que voilà, c'est clair, c'est une offre signature, c'est l'essence de notre méthode. Tout ce qui va s'apparenter à catalogue d'offres, suite d'offres, écosystème, pyramide, etc., peu importe comment on nomme, c'est l'idée d'avoir tout simplement plusieurs offres. Plusieurs offres à proposer en fait. Maintenant, si je devais identifier des différences entre ces différentes appellations, voilà ce que j'en pense. Quand je pense à catalogue d'offres, ça m'appelle plusieurs offres indépendantes sans forcément qu'il y ait du lien entre elles. On va dire que ça va être des offres de nature différente, peut-être sur des sujets spécifiques aussi différents. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas corrélées au positionnement de l'entrepreneur, évidemment, et donc qu'elles sont, en ce sens, liées par une thématique commune, un fil conducteur commun, mais ce sont des offres qui peuvent être complètement indépendantes, sans lien forcé entre elles, encore une fois. Quand j'utilise l'expression « suite d'offres », alors ça, c'est une expression que j'ai beaucoup utilisée avec mon business Yogi Biz Coaching, puisque c'est une méthode, la méthode Flow, que j'enseigne dans Yogi Biz et qui est particulièrement adaptée au business hybride, à savoir des business où il y a du présentiel et du online pour notamment des accompagnements à la personne dans le bien-être. Donc effectivement, je pense que ça touche plus les services comme les thérapeutes. En fait, les gens dont le business model de base, c'est un peu de la du service à l'unité. Donc thérapeute, prof de yoga, etc. Et là, pour moi, la suite d'offres, c'est plutôt comme des offres qui, entre elles, vont avoir une complémentarité, qui vont être cohérentes entre elles, comme un parcours logique. Si je devais mettre un dessin en face de la suite d'offres, je mettrais une fameuse route, en fait, un chemin, pour montrer, voilà, qu'on est dans un système d'offres, en fait, qui fonctionnent les unes avec les autres. Elles peuvent être différentes par leur format, donc leur nature, elles peuvent être différentes par le niveau de proximité de la personne, elles peuvent être différentes par le niveau d'avancement, entre guillemets, de connaissances qu'on veut proposer. Donc voilà, ce serait plutôt ça pour moi, une suite d'offres. Et évidemment, alors je précise quand même, je fais un petit disclaimer, que même si c'est une méthode que j'enseigne dans YogiBiz, dans mon programme YogiBiz Lime, pourquoi je l'enseigne ? Parce que c'est un programme qui a une vocation à accompagner les entrepreneurs du bien-être à développer leur business sur plusieurs années. Et donc, ça permet d'avoir une vision long terme. En revanche, je précise quand même dans ma méthode qu'il s'agit de commencer par une offre et de la vendre et de la revendre et de la re-revendre et d'être en amélioration continue sur cette offre-là avant d'aller créer les offres complémentaires autour. Ensuite, l'écosystème d'offres, ça m'appelle plutôt une vision avec des offres qui sont peut-être comme une offre principale et avec des compléments stratégiques autour, donc des plutôt peut-être ici. Alors, il y a quand même une notion selon moi dans l'écosystème d'offres. Comment je pourrais exprimer ça clairement? Il y a aussi cette notion de suite d'offres et en même temps il y a aussi une notion en fait de comment ton business est réparti. Quand j'entends écosystème d'offres, je vois plutôt la vision en fait d'un camembert. D'accord, donc c'est plutôt voilà comment mon business se répartit à l'intérieur en fait. Enfin, quel est le poids de mes différentes offres à l'intérieur de mon business. Et donc c'est plus la stratégie globale d'avoir plusieurs offres en fait qu'on va résumer sous ce terme écosystème d'offres. On a aussi pyramide d'offres. Donc là, je vois plus la pyramide d'offres comme quelque chose de progressif. Alors ça peut être effectivement dans le prix. Ça peut être dans le niveau de proximité. Ça peut être, du coup, par exemple, une offre d'appel, une offre principale et des upsells premium tout en haut. Donc là, dans la pyramide d'offres, on voit comme, on peut visualiser ça comme un triangle. J'aime aussi, par exemple, dire que dans une pyramide d'offres, on peut avoir du do it yourself en bas de la pyramide, du done with you, donc fait avec toi au milieu, donc et en haut de la pyramide du done for you, donc quelque chose vraiment de personnalisé et d'individuel. Voilà, ça peut être aussi la vision de la pyramide d'offres. Et bien sûr, bon bah je reviens pas sur l'offre unique puisque là c'est un peu plus clair, il s'agit d'une offre signature avec l'essence de notre méthode. Surtout pas une offre fourre-tout, hein, ça, c'est pas ça du tout, mais voilà, c'est plus clair à comprendre. En tout cas, tout ça, comme je le disais, ça veut un peu, si on veut pas vraiment rentrer dans le détail, c'est juste l'idée de développer plusieurs offres. Parce que en réalité, on voit derrière ces définitions qu'il peut y avoir plusieurs offres, plusieurs axes pardon, stratégiques qui peuvent être choisis quand on veut développer justement un écosystème d'offres. Il peut y avoir de la complémentarité, il peut y avoir le fait de jouer sur la proximité, il peut y avoir le fait de jouer sur des offres front-end, des offres back-end, donc la manière dont on va les vendre et communiquer dessus. Il peut y avoir le fait de jouer sur de la progression, il peut y avoir le fait de jouer sur des formats donc do it yourself, done with you ou done for you. Donc tout ça, c'est pas l'objet de l'épisode d'aujourd'hui, mais si jamais tout ce vocabulaire c'est quelque chose qui crée de la confusion pour toi, rappelle-toi juste que quand on parle de tout ça, on met bien en évidence le fait d'avoir plusieurs offres versus avoir qu'une seule offre. Mais je voulais quand même rentrer un petit peu dans le détail, juste pour te montrer justement que même quand on veut aller à un moment donné sur plusieurs offres, bah, c'est pas si simple. Et donc stratégiquement, ça demande de réfléchir aussi à quel axe on va choisir, si effectivement c'est plutôt des offres complémentaires, des offres avec un niveau de proximité différent, des offres avec un pricing différent, etc. Donc ça, bon, bah, évidemment, c'est très... ça va vraiment dépendre la stratégie qu'on va choisir quand on veut développer plusieurs offres, de là où est le business et puis de plein d'autres choses. Donc, c'est pas sur ce point-là que j'irai aujourd'hui, d'accord ? Donc, pour la facilité, la clarté de l'épisode, je vais mettre tout ça sous le même panier et je vais parler de catalogue d'offres. Ok, donc maintenant je te propose qu'on rentre dans les différences entre, on va dire, les avantages et les inconvénients entre une offre signature d'un côté ou une offre unique d'un côté et un catalogue d'offres de l'autre. Alors, pour moi, l'offre signature, c'est un modèle de clarté et de scalabilité. Les avantages que je vois à l'offre unique, l'offre signature, l'offre unique, c'est que tu vas pouvoir mettre toutes tes ressources sur... mettre tout ton focus de toutes tes ressources sur un seul produit. Et donc, ça va faire quoi ? Ça va faire que tu vas être en amélioration continue sur ce produit-là. Tu vas chercher à l'améliorer constamment. Et parce que tu n'as que ce seul produit, en fait, eh bien, du coup, voilà, tu vas pouvoir petit à petit, au fil de ces versions, de tes premiers lancements, etc., l'améliorer en continu. Deuxième avantage, pareil, étant donné que tu te focuses que sur une seule offre à vendre, entre guillemets, ton message marketing, il va être hyper rodé, il va être ultra clair parce que du coup, tu vas bien savoir à qui tu t'adresses, bien connaître tout ce qu'on doit connaître sur son client idéal, hein, c'est-à-dire ses désirs, ses problématiques, les erreurs qu'il fait, ses fausses croyances, là où il veut aller, ce qu'il a déjà essayé qui n'a pas fonctionné, etc. Bref, on connaît notre client idéal sur le bout des doigts, du coup... ça nous permet aussi d'avoir un message marketing hyper rodé, hyper clair lorsqu'on met son focus sur une seule offre. Troisième avantage, c'est que du coup, effectivement, tous les efforts marketing qu'on va mettre en offre, du coup, ont pour seul et même objectif de vendre la même offre. Donc, on va démultiplier finalement les effets et on va avoir besoin d'être... nos efforts, du coup, vont être moins dispersés. Autre avantage, c'est aussi, du coup, plus simple à vendre puisque on a qu'un produit, une offre, enfin, un package... La manière dont on le package, en fait, hein, c'est l'offre. Et souvent, il y a un prix unique. Alors, il peut y avoir des modalités de paiement, hein, mais voilà, c'est simple aussi à vendre. On connaît son prix, il n'y a pas 36 000 options. Donc ça, c'est forcément un avantage aussi. Autre avantage que moi, je vois, c'est aussi beaucoup moins de gestion. En termes de contenu, puisque du coup, notre contenu, pareil, il est toujours sur la même thématique, il a toujours... Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être varié, qu'il ne peut pas avoir plusieurs angles, etc., etc., qu'il ne peut pas être nourri par plusieurs sources. Mais en tout cas, effectivement, c'est du contenu qu'on peut utiliser, réutiliser, recycler, amener sous différents angles, etc., mais toujours avec le même objectif. Ça demande aussi moins de mise à jour, parce que forcément, j'ai une offre à mettre à jour, par exemple, ou un tunnel de vente à mettre à jour, versus autant de tunnels ou de mises à jour à faire que de produits différents dans le cas où j'ai plusieurs offres. Ça va du coup être moins de gestion aussi au niveau des automatisations, ça va être aussi moins de gestion au niveau du support client, au niveau même du customer care, ça va être aussi peut-être moins de gestion en termes de tout ce qui est logistique, tout ce qui est suivi, tout ce qui est tracking, etc. Donc évidemment, C'est simplifié, la gestion est simplifiée. Et enfin, alors, selon moi, c'est aussi une stratégie, du coup, d'expérience qui va permettre de scaler, d'aller plus loin facilement, et je reviendrai sur ce point. En tout cas, l'avantage que je vois à une offre unique, en réalité, c'est la simplicité et le fait de savoir où mettre son focus. Les inconvénients, et moi j'ai connu ça avec Yogi Bizline, qui aussi en plus est très niché, hein, puisque c'est spécifiquement pour les profs de yoga, bah, c'est qu'effectivement il y a un enjeu de renouveler son audience et renouveler du coup l'acquisition de nouveaux prospects et de nouveaux clients régulièrement. Il y a aussi l'aspect du coup je dépends effectivement d'un seul produit. Alors même si en soi, comme on a vu dans les avantages, qu'on peut être aussi dans l'amélioration continue, finalement, quand on met notre focus que sur un seul produit, on peut peut-être aussi l'adapter plus facilement si nécessaire au marché ou à l'évolution de notre cible. Mais malgré tout, par exemple, typiquement, moi, je faisais 80, voire 90% même, plus 90, 95 en réalité, de chiffre d'affaires avec mon offre Yogi Bizline. Bon, bah, c'est sûr que si, par exemple, ma stratégie, c'était un lancement et que je faisais pas de vente, j'étais vraiment dépendante. Ça n'est jamais arrivé, mais j'étais dépendante, effectivement, à ce seul produit, même si, en réalité... J'ai plein de ressources qui font que j'aurais pu proposer d'autres choses voilà, rapidement. Mais en tout cas, dans les faits, effectivement, notre chiffre d'affaires, il est lié à un produit majeur. Alors, il y a aussi un aspect, mais ça, j'y reviendrai, parce qu'en fait, c'est un aspect, c'est plus une peur qu'on a avant même de se lancer finalement dans le business model de l'offre unique, c'est que ça peut sembler ennuyant pour les créatives. Donc ça, j'y reviendrai parce que à mon sens, c'est faux en fait. Mais je t'expliquerai ça dans la partie erreur que je vois dans la création d'offres. On terminera par cette partie-là. Et autre inconvénient, et ça par contre c'est vrai, c'est que bah, une fois que leur problème est résolu, les clients du coup, ils continuent leur chemin ailleurs ou avec quelqu'un d'autre, puisque quand on a une seule et même offre, bah, on n'a rien d'autre à proposer ensuite pour continuer le chemin avec nous. Alors, si je devais déjà faire une rapide synthèse sur l'offre signature, selon moi, c'est une offre à privilégier lorsqu'on veut aller vite, c'est-à-dire qu'on a un objectif de chiffre d'affaires et qu'on veut l'atteindre le plus rapidement possible. On a des enjeux de chiffres ou des enjeux financiers. Il y a ce truc de vouloir aller vite au résultat. Par exemple, si peut-être j'ai un CDI ou je suis dans le corporate, j'ai pas forcément l'envie de quitter mon job. Pour le moment, donc en fait je suis pas en train de construire un autre projet à côté dans l'idée forcément de quitter mon job un jour, bah, peut-être que j'ai pas besoin d'aller vite à un certain résultat et donc auquel cas je me sentirais peut-être moins concernée par ça. À l'inverse, peut-être aussi que j'ai pas beaucoup de temps pour développer un side project et donc dans ce cas-là me concentrer sur une offre unique me fera gagner du temps et aller plus vite. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de est-ce que je veux aller vite au résultat, est-ce que je veux que ce soit entre guillemets efficace ce que je fais. Moi je pense aussi que très clairement quand on est en début d'activité, qu'on lance son business et tant qu'on n'a pas réalisé un certain palier de chiffre d'affaires, je pense que l'offre unique c'est le meilleur moyen justement de développer son business et d'atteindre en fait un chiffre d'affaires déjà significatif. Typiquement, moi je recommande peu de se disperser dans plusieurs offres avant, d'ailleurs c'est ma méthode 50K, hein, avant d'avoir atteint à minima, donc ça dépend des business aussi, 30, 40, 50K. En tout cas, finalement, avant d'avoir atteint notre objectif de chiffre d'affaires principal. Voilà, je pense que si je me lance dans un business et je me dis, voilà, idéalement, l'objectif de chiffre d'affaires que je souhaite atteindre pour en vivre, pour vivre de mon business, pour être bien, etc., c'est tant. Donc, encore une fois, ça va dépendre et ça, c'est à tout à chacun de fixer ce montant. Ben, je dirais que tant que j'ai pas atteint cet objectif-là et donc que tant que je me paye pas, en fait, avec mon business ou que j'attends pas le chiffre d'affaires, que mon business ne me permet pas d'en vivre, je resterai focus sur cette offre unique et sur cette offre signature. Il faut savoir que on peut aller très très loin et scaler très haut avec une seule et même offre signature. Bah, typiquement, voilà, c'est possible de faire 1 million d'euros avec une seule offre. Et enfin, moi je suis adepte de ce qui va être business essentialiste, minimaliste, simple. Un business dans lequel on va éventuellement pouvoir rester aussi solo. Et bien, dans ce cas-là, pour moi, le fait d'avoir une offre unique, c'est l'équivalent d'avoir beaucoup de temps, d'avoir peu de contraintes, selon aussi comment on va penser notre offre, évidemment. C'est l'opportunité, à un moment donné, comme on arrive à bien développer cette offre-là, à convertir, à en vivre, de pouvoir passer en evergreen et de se faire plaisir de temps en temps avec des temps forts en créant des momentum, mais sans stress parce qu'il y a moins d'enjeux financiers derrière. Donc pour moi, quand on veut garder à la fois un business simple et scalable, c'est plutôt une bonne option. Maintenant, le catalogue d'offres, selon moi, c'est la direction de la diversification, même si ça peut être aussi de l'éparpillement, et là, c'est pas pareil. Mais si c'est bien fait, en tout cas, si je choisis ce modèle-là d'avoir plusieurs offres au bon moment, eh bien, à ce moment-là, ça peut être un modèle de diversification et de fidélisation. C'est d'ailleurs comme ça aussi que je l'aborde dans la méthode Flow de Yogi Bizline. Les avantages donc d'avoir plusieurs offres de ce fameux catalogue d'offres. Bien évidemment, le premier avantage que j'y vois, c'est le fait de pouvoir fidéliser ses clients. Comme on a plusieurs niveaux d'offres en fait, eh bien effectivement, nos clients vont pouvoir travailler sur plusieurs offres avec nous. Par conséquent, deuxième avantage, ça va nous permettre d'augmenter le panier moyen de nos clients chez nous. Donc, ce qu'on appelle la lifetime value client. Puisque du coup, c'est un petit peu la démonstration que je fais avec la méthode Flow. Mais au lieu de dépenser 20, 50, 80, 200 ou même 1000 euros chez moi, du coup, mon client potentiellement va pouvoir acheter plusieurs offres. Et donc forcément, au lieu de dépenser 500 euros, il en dépensera peut-être 1000, peut-être le double. Donc augmentation du panier moyen. Autre avantage qui est là plutôt lié au marché, c'est que quand je suis dans une dynamique comme ça de plusieurs offres, de catalogue d'offres, j'ai aussi plus facilement cette capacité à surfer sur les tendances du marché. C'est-à-dire s'il y a quelque chose qui émerge, typiquement par exemple si je suis infopreneur sur Instagram, évidemment que s'il y a une tendance qui émerge à un moment donné sur Instagram, typiquement on a connu ça avec les Reels, eh bien je vais pouvoir créer une nouvelle offre en complément des autres offres que j'ai dans mon catalogue d'offres sur Instagram. Et donc je vais pouvoir en fait créer une nouvelle offre qui répond aux évolutions du marché ou à l'évolution de mon audience ou à la demande de mon audience. Donc il y a cette capacité du coup à réagir, à surfer sur les tendances. Et puis l'autre point aussi intéressant, c'est que c'est aussi une opportunité d'avoir des animations commerciales récurrentes et pour autant diversifiées. Parce que quand j'ai plusieurs offres, je vais pouvoir créer des packs différents. Donc, je vais pouvoir varier les combinaisons, je vais pouvoir, du coup, varier les prix, je vais pouvoir faire des bundles, je vais pouvoir faire des packs promo différents, je vais pouvoir ajouter des choses ou en enlever, en bonus. Donc, ça va me laisser un grand terrain de jeu et pas mal de marge de manœuvre pour ça. Donc, si j'aime régulièrement, par exemple, faire Black Friday, faire une offre pour la Saint-Valentin, faire une offre pour les X années de ma boîte, faire une offre pour le lancement de ceci, etc. Je vais pouvoir énormément jouer avec ça. Alors, par contre, les inconvénients maintenant, c'est que effectivement, c'est aussi une complexité de gestion beaucoup plus importante. Puisque qui dit différentes offres dit que chaque offre doit être marketée, donc ça veut dire différentes offres à marketer différemment. Ça veut dire aussi différentes offres à promouvoir. Ça peut vouloir dire aussi du coup qu'il faut être très au clair sur son calendrier marketing, sur quand est-ce qu'on va lancer ou faire tel type d'opération commerciale, de promotion, etc. Donc forcément, ça renforce une complexité de gestion. Évidemment, ça va demander aussi une création constante, d'être dans la création constante de nouveaux contenus. Donc forcément, une charge de travail associée accrue dans l'absolu. Hein, on verra après que dans quel cas, entre guillemets, je peux avoir plusieurs offres sans forcément que ça insuffle une charge de travail supplémentaire. Ça, je vais y revenir après. Mais en soi, bah oui, je dois créer constamment du nouveau contenu, de nouvelles offres, un nouveau marketing, du nouveau matériel de vente. Hein, chaque offre doit avoir son tunnel de vente, par exemple, donc sa page de vente, sa page de paiement, son email d'onboarding, sa campagne email peut-être derrière nécessaire, peut-être son support pour la communauté, etc., etc. Donc, on est dans de la création constante, mais aussi dans, effectivement, cette fameuse complicité de gestion associée. Ça veut dire aussi qu'on va faire beaucoup de marketing et beaucoup de ventes pour promouvoir des produits différents. Et en autre inconvénient aussi, il y a du coup peut-être la dilution du message ou le fait de créer de la confusion dans mon audience. Parce que si justement ces différentes offres, elles sont pas très claires, eh bien, alors, ce qui va revenir le plus souvent, moi je le vois dans les clientes que j'accompagne, c'est que clairement, les clients ne savent pas quelle offre choisir ou vous sollicitent régulièrement pour « je sais pas quelle est l'offre la plus adaptée à moi, je sais pas quelle offre choisir, etc. » Donc ça peut être un signal en tout cas de se dire « tiens, il y a peut-être quelque chose à corriger, à modifier, à optimiser et peut-être que finalement, mon catalogue d'offres, il est pas si clair. » Ça peut être aussi une autre option qui est de se dire « ok, je vais jouer là-dessus et donc du coup, je vais... créer soit des automatisations par exemple pour mieux diriger mes clients, soit créer un lead magnet du type quiz qui dit bien en fonction de certaines réponses quelle est l'offre la plus adaptée pour toi. Donc évidemment on peut en jouer, mais vous voyez que ça vient renforcer en fait l'idée d'une gestion plus compliquée et malgré tout il y a les clients qui feront l'effort pour résoudre ce problème de confusion, mais il y a aussi tous les esprits confus qui n'achèteront pas, hein, je pense que vous connaissez l'adage, et qui resteront dans l'audience silencieuse et qui, comme ils n'arrivent pas à se décider ou à choisir au milieu de vos offres, préfèrent partir ailleurs. Et donc, enfin, dernier inconvénient que je vois, c'est un risque d'éparpillement, finalement, pour le créateur, et un risque de surcharge de travail. Du coup, quand est-ce que je privilégierais le fait d'avoir plusieurs offres ou le fameux catalogue d'offres ? Je dirais quand il y a une première offre, et donc ce que j'appellerais l'offre principale, entre guillemets, quand il y a cette première offre qui est déjà en soi bien établie, donc en tout cas qui nous permet de vivre de notre business déjà par rapport aux objectifs qu'on a. Évidemment aussi, si j'ai quelqu'un qui est plus créative et aussi qui est forte, qui est à l'aise, je dirais, en marketing et en vente, parce que du coup, c'est quelqu'un qui va aimer se renouveler sur ces aspects-là. Donc, je dirais que voilà, ça demande d'être et créative, forte en création de contenu et en marketing et en vente. Évidemment, on veut à un moment donné maximiser la durée de vie de nos clients. Donc, voilà un petit peu les avantages et les inconvénients de l'offre unique d'un côté et plusieurs offres ou le catalogue d'offres de l'autre. Maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails des critères, des questions que tu peux te poser pour savoir comment choisir entre cette offre unique et ce catalogue. Je pense que plutôt que de chercher ce qui est mieux pour toi, enfin plutôt de te dire qu'est-ce qui est mieux pour moi, l'idée c'est plutôt de te poser les bonnes questions stratégiques et donc je vais t'amener ces quelques questions-là. Je crois que j'ai noté 5 questions que tu peux te poser. C'est typiquement le travail que je fais moi aussi quand je reçois des clientes en immersion. Pour savoir stratégiquement vers quoi on peut se diriger. Et je dirais que la première question déjà, c'est quoi ton objectif de chiffre d'affaires ? Donc j'en ai un peu parlé, hein, mais l'idée c'est d'être au clair sur combien tu veux gagner et en combien de temps tu veux gagner ça. Si tu veux générer du CA rapidement et facilement, je vais avoir tendance à te diriger vers une offre unique que tu vas bien rôder au fil de l'eau et qui va être plus rapide à vendre et qui va t'amener de meilleures conversions. Si tu veux maximiser le panier moyen et la durée de vie de tes clients, alors là, du coup, donc on est dans un autre objectif, d'accord ? Peut-être que l'écosystème d'offres structuré qui va augmenter la valeur par client sera plus adapté pour toi, mais par contre, c'est quelque chose qui demandera plus de gestion, comme on l'a vu. En soi, moi, je crois que, encore une fois, tant qu'on n'a pas atteint le niveau de chiffre d'affaires qu'on souhaite réaliser avec notre business pour se rémunérer et en vivre, eh bien, une seule offre unique, bien positionnée, suffit. Et très clairement, avec une seule offre, on peut facilement aller chercher les 6 chiffres. Deuxième chose, ton audience. Si tu démarres ton activité, il y a des personnes qui démarrent ou qui commencent à monétiser quelque chose qui ont déjà une audience, qui ont déjà peut-être beaucoup de followers. Alors attention, parce que c'est pas forcément qualifié, hein, on connaît le problème de ça, mais qui ont déjà, on va dire, des personnes, une communauté de personnes intéressées par ce qu'elles partagent, d'accord ? Donc, si sur une petite audience pour l'instant ou une audience nouvelle, tu démarres quelque chose, eh bien l'offre unique en fait va t'éviter justement, enfin va te simplifier en fait l'acquisition, va t'éviter de disperser ton message et donc de te concentrer, mais aussi, alors je vais y revenir après, mais aussi souvent une offre unique, du coup on va avoir un prix moyen qui va être peut-être de l'ordre d'une offre plus premium ou plus élevée, hein, même si on n'est pas dans du high ticket. Donc du coup, on aura aussi besoin de moins de clients, de convertir moins de clients pour atteindre notre objectif de chiffre d'affaires. Donc c'est ce en quoi aussi une offre unique qui peut-être apporte plus de valeur qu'un catalogue d'offres ou que plein de petites offres peut nous permettre au début justement d'atteindre notre objectif de chiffre d'affaires plus vite, même avec une petite audience. Ensuite, si ton audience, elle est plus mature, plus engagée, déjà plus développée, un parcours d'offres progressif va te permettre de accompagner tes clients sur le long terme et du coup d'optimiser ton panier moyen. Donc, quoi qu'il en soit, si tu crées plusieurs offres et que ces offres-là, elles sont plus accessibles aussi en termes de prix, alors tu auras besoin de plus de volume nécessaire. Donc, il te faudra plus travailler aussi sur ta communication, ton marketing, ta visibilité pour faire plus d'acquisition. D'accord ? Donc, si je résume, par rapport à l'audience, et souvent, hein, il y a beaucoup de compétences marketing ou vente à développer quand on démarre un business. Bah, du coup, le fait d'avoir une offre unique bien pricée par rapport à tes objectifs de chiffre d'affaires peut te permettre d'atteindre ces objectifs-là plus facilement avec moins de clients, même si tu as une petite audience. À l'inverse, effectivement, si tu as déjà une grande audience quand tu démarres, si tu souhaites créer une offre plus accessible, bah tu sais juste qu'il te faudra peut-être plus de volume pour atteindre cet objectif-là. Troisième levier, c'est tout ce qui va être autour de ton énergie, ton temps, ta disponibilité, et je mettrai aussi ici ta charge mentale. En fait, la question, c'est est-ce que tu es réellement prête à gérer plusieurs offres ? Donc, on a vu que chaque offre différente va demander du marketing différent, va demander une stratégie peut-être d'acquisition, de conversion différente, une gestion client différente, des mises à jour différentes, etc. Donc, multiplier les offres trop tôt dans le développement de ton activité, c'est aussi quelque chose finalement qui peut venir ralentir ta croissance plutôt que de l'accélérer. Si tu te sens déjà avec ce que tu as à faire pour développer ton activité au bord de la surcharge, dans ce cas-là, mieux vaut simplifier. À l'inverse, si tu es dans une dynamique d'expansion, que les fondations de ton business sont stables, que tu as déjà une offre qui tourne bien, alors structurer un écosystème d'offres, ça peut devenir du coup un atout pour toi. Ici, ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que peut-être que tu imagines que créer une offre unique, un peu plus signature, comme ça te paraît peut-être quelque chose de plus conséquent et à un tarif plus élevé, t'as l'impression que ça va te demander plus de temps, plus d'énergie, etc. Mais en réalité, que tu doives vendre une petite offre à plus petit prix ou une offre unique plus signature à plus cher peut-être, finalement, ça va te demander autant d'énergie dans le marketing et dans la vente. Donc, c'est pas forcément là-dessus qu'il faut poser ton intention et faire un choix en fonction de ça. Je sais plus où j'en suis. Quatrième peut-être levier, ton modèle de travail. Effectivement, selon si tu es seul et si tu veux peut-être aussi rester seul dans ton business ou si tu as une équipe ou si tu as pour objectif ou ambition de structurer ta boîte avec une équipe, alors là aussi, peut-être que les choix vont être différents. Si tu es solopreneur et que tu veux un business simplifié, flexible, agile, une offre signature, une offre unique, bien positionnée, ça va t'éviter la dispersion, ça va t'éviter la surcharge et c'est complètement possible d'aller chercher plusieurs milliers d'euros avec une seule offre signature en restant seul, sans équipe. En revanche, si tu as déjà une équipe en place ou que la délégation, c'est ton truc ou c'est la vision que tu as pour ton entreprise, alors le fait d'avoir un catalogue d'offres structuré, c'est quand même quelque chose qui peut devenir intéressant pour toi parce qu'en réalité, tu vas pouvoir répartir la charge de tout ce qu'on a vu, hein, la charge que demande la gestion d'un catalogue d'offres, eh bien cette charge, elle va pouvoir être répartie sur plusieurs personnes. Peut-être que toi, tu vas être celle qui décide des nouvelles offres à créer. Peut-être que tu vas en créer certaines, mais pas toutes. Et peut-être que tu vas être la présupposée au marketing, admettons marketing-vente. Mais derrière, peut-être que tu as toute une équipe qui va organiser le calendrier, qui va s'occuper de la gestion de projet. Peut-être que tu vas avoir quelqu'un... qui s'occupe de tout ce qui est programmation et planification de tes posts. Peut-être que tu vas avoir quelqu'un qui s'occupe de la gestion, la mise à jour des tunnels de vente. Peut-être que tu vas avoir quelqu'un qui peut s'occuper du customer care. Donc, auquel cas, si tu es seul, l'offre unique va être plus gérable. Si tu as une équipe, en tout cas, le fait d'avoir plusieurs offres, ça devient aussi envisageable. Et enfin, le dernier levier sur lequel on peut poser notre attention, c'est... Eh bien, tout simplement, ton fonctionnement naturel à toi et tes talents. Comment est-ce que tu aimes travailler ? Si tu es une optimisatrice, que tu aimes approfondir, que tu aimes structurer, que tu aimes perfectionner, etc., tu vas probablement te régaler dans une seule offre unique, bien ficelée, qui va peut-être même que tu vas pouvoir vendre après en continu. Donc ça peut être vraiment l'idéal pour toi. Si à l'inverse, t'es une créative, t'as besoin de variété, d'innovation, peut-être qu'un écosystème d'offres bien pensé pourra t'apporter plus de motivation et de flexibilité. Mais encore une fois, attention à ne pas voir que cet aspect-là du spectre sans le reste. Parce que si tu te dis « ouais, moi je suis créative, j'ai besoin de variété et d'innovation », mais que tu oublies tout l'enjeu de atteindre ton chiffre d'affaires, de vouloir rester seul, et que tu n'as pas les fonds par exemple pour l'instant, pour avoir une équipe ou quoi, du coup, si tu pars juste en disant « je prends juste ce levier-là », parce qu'il m'arrange finalement, peut-être tu vas foncer droit dans le mur avec la multiplication de tes offres, d'accord ? Donc selon moi, c'est vraiment des leviers qui doivent être pris tous ensemble en fait. Donc pour finir sur les avantages, les inconvénients, comment choisir, etc., mon avis sur le sujet et d'expérience, quand on veut un business où on va continuer à développer notre chiffre d'affaires ou atteindre nos objectifs de chiffre d'affaires tout en ayant ce life balance qu'on veut, donc c'est-à-dire cet équilibre au quotidien, se faire passer en priorité, avoir du temps pour soi, ne pas vouloir toujours plus, etc. Qu'on recherche quelque chose de simple, de minimaliste, de rentable, tout en ayant du temps pour nous, qu'on a envie de garder cette agilité, qu'on n'a pas envie forcément d'aller s'encombrer avec une équipe, etc. Je pense que l'offre unique est la meilleure solution, et en tout cas l'offre unique est la meilleure solution jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif de chiffre d'affaires et de revenus, et après ça, clairement, tu peux t'amuser. Je pense aussi que... Non, je vais m'arrêter là pour mon avis et mon expérience, que sinon ça me fait aller sur un autre sujet. Donc j'essaye d'être plus synthétique. Par contre, comme tu vois, hein, il n'y a pas de réponse universelle. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime les immersions individuelles, parce que ça me permet une vision à 360 et de ma cliente et de son business pour la diriger vers la bonne stratégie pour elle. Et c'est une décision qui est à prendre en fait en fonction de là où tu en es dans ton business en termes de chiffre d'affaires, à quel stade finalement, à quel palier de chiffre d'affaires tu es. Ça dépend de ce qui fonctionne déjà ou pas dans ton business, à savoir voilà, est-ce que il y a déjà une bonne acquisition, est-ce qu'il y a déjà une bonne conversion, etc. Et puis ça va dépendre de ton objet, ton énergie et ta nature, ton fonctionnement naturel à toi, ta nature profonde, ton fonctionnement naturel, et donc comme on l'a vu, de tes objectifs. Typiquement, j'ai eu par exemple récemment deux cas en immersion. J'ai le cas d'une de mes clientes qui gère un business en présentiel, donc avec de l'accompagnement, des services d'accompagnement. Typiquement, elle a, enfin c'est une prof de yoga, donc typiquement elle a quelques cours de yoga dans sa semaine. Elle a donc c'est des cours de yoga collectifs et des cours aussi en entreprise. Elle a atteint le chiffre d'affaires qu'elle voulait atteindre avec cette activité en présentiel. Elle n'a pas la volonté d'ajouter forcément des créneaux. Elle a des offres qui sont hyper bien structurées, hyper bien pricées. Donc, elle a quelque chose qui est fluide, qui fonctionne bien, qui fidélise bien ses clients, du coup, en présentiel. Et on va dire que, globalement, elle est à un palier de chiffre d'affaires autour des 30K par an avec cette activité-là. Clairement, pour elle, en fait, aujourd'hui, elle se sent équilibrée dans l'utilisation de son temps, dans les contraintes horaires, voilà, de cette activité. Voilà, c'est comme si, en l'état, c'est parfait. Et donc, comme elle souhaite continuer à développer son chiffre d'affaires, vu qu'elle a ce système-là en présentiel qui est éprouvé, même si on est à 34 chiffres d'affaires, en fait, c'est le moment idéal pour elle. On a identifié que c'était le bon moment effectivement pour se lancer dans une offre signature en ligne sans pour autant voilà que ça vienne complexifier son business. En plus, l'offre signature, elle est bien identifiée sur une typologie de clients, etc. Donc, c'est complètement viable, d'accord ? Donc, elle réalise 34 chiffres d'affaires avec ses activités en présentiel. C'est quelque chose qui est solide, qui tourne, il y a des bons fondamentaux business en place, donc c'est OK. À l'inverse, j'ai travaillé avec une cliente qui a un business qui est très bien développé avec il y a un studio en ligne, c'est pas du yoga à proprement parler, il y a aussi des formations à côté, etc. On est sur un business à plus de 200K, mais ici pour autant, quand on a regardé le parcours client et l'ensemble de l'écosystème d'offres, eh bien il y avait beaucoup de choses sur lesquelles faire le tri, simplifier et à regrouper, parce que finalement il y avait une incohérence dans le parcours client qu'entraînait du coup des incohérences marketing, qu'entraînait du coup des complications à la vente, etc. Donc là aussi, comme quoi, je viens mettre en évidence que effectivement ça peut être intéressant d'avoir un regard unique sur votre propre situation. Donc, vous avez maintenant en tête les avantages et les inconvénients de chaque modèle, mais encore une fois, c'est bien à adapter à tous ces différents critères qu'on a vus et à votre propre situation. Maintenant, j'aimerais terminer cet épisode en partageant les erreurs les plus courantes ou les plus communes, parfois aussi les fausses croyances que je vois quand il s'agit de la création d'offres. Alors, ce que je vois le plus souvent quand il s'agit de parler d'avoir une offre unique et de rester sur une seule offre jusqu'à un certain niveau de chiffre d'affaires, souvent, il y a la croyance qu'on va s'ennuyer avec une seule offre. En réalité, ce qui se passe, c'est souvent tout l'inverse une fois qu'on est dans l'action de ça et dans notre offre, puisque d'une part, en fait, on améliore sans cesse notre offre, donc on a des feedbacks clients et on a toujours cet enjeu d'améliorer notre offre qui est quand même hyper stimulant et hyper satisfaisant, donc de pouvoir tester aussi des variations, des mises à jour, etc. Et puis, une fois que l'offre en elle-même, elle est bien rodée, c'est agréable aussi de jouer sur d'autres aspects comme notre pédagogie, de venir aussi ajouter des éléments en fonction de notre expérience. L'avantage, c'est que ensuite, parfois, on continue à se former, voire même on continue notre propre chemin d'évolution. Et du coup, tout ça, petit à petit, c'est des choses qu'on peut venir ajouter à notre offre unique pour renforcer notre pédagogie ou renforcer ce qu'on partage, nos enseignements, etc., grâce à notre propre expérience. Et puis ensuite, on peut aussi venir s'amuser en fait avec des upsells. Donc les upsells, c'est des petites choses qu'on peut vendre en plus. Comme par exemple, peut-être que je peux avoir une offre principale, une offre unique, et puis en upsell, je vais peut-être mettre, peut-être une approche one-one, peut-être la possibilité de faire cette offre-là, mais en présentiel. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses à faire. Donc en réalité, on s'ennuie pas, parce qu'il y a quand même... Il y a quand même toujours des choses nouvelles qui arrivent sur notre parcours ou des choses nouvelles dans lesquelles on va se former et qui vont du coup renforcer nos connaissances, nos compétences et notre expérience pour notre thématique de prédilection et qui vont nous permettre de toujours faire évoluer cette offre unique. Et puis, je vous assure que quand on est connu et reconnu pour quelque chose, il y a aussi ce sentiment, enfin ça apporte aussi du coup un sentiment de satisfaction et d'envie de continuer à rester ou à être leader sur cette offre-là, sur cette approche, etc. Une autre erreur que je vois souvent, c'est les personnes qui créent l'offre avant de la vendre, en fait. Et du coup, là, effectivement, sur leur première offre, une offre unique, si je crée l'offre dans ma tête pendant plusieurs mois et que d'un seul coup je décide que c'est bon, je suis prête, je vais mettre ça en face de mon audience et voilà ce que j'ai à vous vendre. Souvent, dans ce cas, quand l'offre est pas pré-vendue ou bêta-testée ou co-construite avec l'audience, on a un gros risque de flop. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Les personnes qui font ça, elles veulent pas abandonner ce qu'elles ont créé pendant des mois parce que ça leur a pris du temps, parce qu'il y a une espèce d'attache émotionnelle à ce qu'elles ont créé dans leur coin, entre guillemets. Et en fait, on reste amoureux de son idée, entre guillemets, et on reste accroché émotionnellement à un produit qui ne se vend pas. Et en fait, à partir de là, on rentre en résistance, tout va être résistance, tout va être compliqué. On va essayer peut-être de vendre cette offre en la découpant, donc en faisant d'une offre finalement, est-ce que je devrais pas en faire plusieurs offres et ça se vendra peut-être plus facilement comme ça parce que ça sera moins cher. En fait, on va faire des actions qui sont peut-être pas les bonnes. En fait, si l'offre elle se vend pas, c'est tout simplement que c'est pas une offre qui fit avec ce que veut mon audience ou ce que veulent les gens. C'est peut-être parce que mon marketing ou ma promesse est pas bonne. Et donc du coup, on va rester attaché à cette offre-là, essayer de la vendre par toutes les manières qui soient, mais en fait, on est dans un espèce de forcing. Et ça marche pas. Donc, d'où l'importance de vendre une offre avant de la créer. Autre chose ou autre erreur que je vois souvent aussi, alors c'est que des cas que j'ai eu, soit en immersion, soit même dans Yogi Bizline, en coaching collectif, etc. Donc certaines d'entre vous vont peut-être se reconnaître, mais j'ai aussi souvent le cas de faire une version, par exemple quand c'est une formation ou une offre qui pourrait être à destination des professionnels, j'ai parfois des clientes qui me disent « je vais d'abord faire l'offre pour les particuliers ». avant de faire la version pour les professionnels. Sauf qu'en réalité, en fait, elles pensent que de cette offre qu'elles vont créer pour les particuliers, du coup, elles seront plus légitimes ensuite pour créer une offre dédiée aux professionnels. Sauf qu'en réalité, là, c'est pareil. C'est pas le même client cible. Donc, ça va pas être le même marketing. Ça va pas être les mêmes. Les clients vont pas avoir les mêmes raisons d'acheter. Peut-être n'ont pas le même désir in fine. Donc, du coup, ça va pas être le marketing, le même marketing. Ça va pas être forcément non plus être les mêmes stratégies de vente, etc. Donc, finalement, en quoi je gagne du temps ou de l'expertise ou de la légitimité puisque tout est différent. C'est comme si c'était deux business presque différents. Donc ça, en général, c'est plus une perte de temps. C'est plus sûrement pour se rassurer soi-même ou c'est plus parce qu'on croit que. Mais en réalité, dans la vraie vie du business, ça fonctionne pas non plus. J'ai aussi le cas, quand on n'est pas sûr, genre je crée une version pour le B2C avant une version B2B pour me sentir plus légitime, j'ai aussi le cas de créer une autre petite offre ou une autre offre ou un truc plus facile à vendre, voire même j'entends des fois, j'ai eu le cas d'ailleurs dans le dernier coaching, je vais créer ça comme ça va tourner tout seul en attendant d'avoir plus de temps ou de créer mon offre signature. Ben ça c'est pareil en fait, clairement c'est une dilution de votre énergie, une dilution de vos ressources et très souvent une perte de temps parce que, encore une fois, qui dit offre différente à packager dit marketing différent, dit création d'offres différentes, dit vente différente, dit mise à jour, dit customer care. Et tout ça, eh bien, en fait, c'est du temps. Et donc, c'est du temps que vous allez dédier à l'offre en attendant que et non pas à l'offre principale que vous voulez vendre, que vous voulez construire, vendre, qui est l'offre qui doit vous amener à vivre de votre activité, de votre business et de votre chiffre d'affaires. Et du coup, bah, là encore, en fait, on se trompe d'objectif et on met pas son focus au bon endroit. Et donc, en général, ça marche jamais. Et typiquement, là, c'était le cas en plus de je vais réunir, par exemple, tout... donc, c'était... évidemment, j'ai beaucoup d'exemples encore hein, de profs de yoga, mais c'était je vais réunir des cours que j'ai déjà enregistrés, en gros, les packager pour faire un membership, et ça tournera sans moi. Bah, grosse erreur, parce que déjà, membership égale offre à petit prix, égale il faut beaucoup de monde pour réussir à en vivre, égale il faut apporter du nouveau contenu tous les mois pour que les gens restent aussi dans le membership, etc. Enfin, vous imaginez le temps que ça prend à gérer ça. Donc, si c'est genre ça va tourner tout seul pour que j'ai ensuite plus de temps pour mon offre signature, en fait, ça ne marche pas comme ça. Il y a aussi le cas de j'ai une offre qui marche bien, j'ai atteint mes objectifs de chiffre d'affaires, donc ça c'est ok, admettons qu'on est dans le cas où je suis prête pour aller créer une deuxième offre. Et là souvent c'est une erreur sur à qui va s'adresser cette deuxième offre de mon écosystème d'offres. On peut avoir tendance à se dire, eh bien du coup, il y a certaines personnes qui ont suivi mon offre A, par exemple, qui sont intéressées pour aller plus loin. Donc, je vais créer cette offre B pour aller plus loin. Le truc, c'est que, alors pareil, hein, il peut y avoir des situations différentes à analyser, mais souvent, quand je parle là-dedans, ça veut dire que je m'adresse que à un segment de clients de mon offre A, c'est-à-dire qu'à un pourcentage infime, finalement, des clients qui sont dans mon offre A. Donc, en fait, est-ce que cette offre B, par rapport à l'énergie, à ce que ça va me demander de créer et peut-être à ce que ça va me demander aussi comme énergie en livraison du produit, en marketing, en vente, etc., est-ce que ça va finalement être rentable puisque c'est pour un petit pourcentage de clients de l'offre A seulement. Donc, parfois, là aussi, et là, je reviens un petit peu à ce que je vous disais tout au début, sur la nature même de l'offre qu'on va vouloir créer quand on commence à créer une deuxième offre ou à vouloir multiplier ses offres ou se diversifier. Là, par exemple, en l'occurrence, c'est peut-être le bon moment. Par contre, selon la nature d'offre que je vais choisir, peut-être que je vais me planter et que ça va pas avoir les effets réelle de la puissance que peut avoir un catalogue d'offres. Donc, beaucoup d'énergie peut-être pour peu de résultats. Donc, attention, quand je crée une offre B, elle s'adresse à qui finalement? Et peut-être attention si toutefois ce n'est que un faible pourcentage ou un segment de clients spécifique de l'offre A, c'est peut-être pas judicieux de penser une deuxième offre en ce sens. Et enfin, les deux dernières erreurs, lancer une seule fois son offre signature et parce que ça n'a pas marché ou pas marché à la hauteur des objectifs qu'on s'est fixés, abandonner. Ça, clairement, je l'ai vu très souvent. Et en fait, c'est une erreur parce que ça peut être parfois, c'est pas l'offre en elle-même, ce qu'il y a à l'intérieur qui est pas bonne. C'est le marketing qui peut être à revoir. C'est la promesse de l'offre qui peut être à ajuster. C'est la stratégie de vente qui est peut-être pas adaptée. Peut-être que vous n'êtes pas compris avec votre audience, etc., etc. Ou alors, et justement, en fait, c'est le fait de améliorer, de comprendre, de récolter du feedback et de revoir des éléments. Par exemple, moi, même si le premier lancement en bêta test et en pré-vente de YogiBizLine avait très bien fonctionné, eh bien, j'ai quand même, pour le deuxième lancement, changé la promesse. Je pense que si j'avais gardé la même promesse entre l'offre bêta et la, finalement, V1 ou V2, comme on veut, que j'ai lancé après, eh bien, ça n'aurait pas aussi bien fonctionné. Donc, parfois, voilà, une promesse, c'est quand même une phrase qui peut changer la trajectoire de vos ventes. Donc, en fait, non, lancer une fois, clairement, et abandonner derrière, ça suffit pas. Et enfin, il y a encore deux choses. Erreur que je vois très souvent aussi, parce que, certes, c'est une stratégie qui fait sens, c'est de se focaliser sur un petit produit d'appel trop tôt. Donc, ce que j'appelle les produits d'appel, c'est les petites offres. C'est les offres, justement, qui servent à fidéliser. Donc, c'est des petites offres à 27, 37, 47 euros qui, en fait, permettent derrière d'avoir une audience plus engagée et plus susceptible d'acheter une deuxième fois chez vous. Donc, ça accélère et finalement, enfin, ça favorise la fidélisation. Sauf qu'en réalité, on pense souvent qu'il faut d'abord créer ce petit produit-là avant de créer justement l'offre principale, entre guillemets. Et souvent, c'est pas le bon ordre pour faire les choses. On a l'illusion, en fait, qu'un petit produit, ça va être plus facile à vendre. Sauf qu'en réalité, non, c'est pas forcément plus facile à vendre qu'une offre signature ou plus premium au-dessus. Et en plus, si je devais recommander quelque chose, encore une fois, quand on veut vivre de son activité et de son business, ça serait d'abord de se focaliser sur l'offre principale, entre guillemets, et ensuite de venir ajouter ce petit produit d'appel comme un accélérateur, comme un levier supplémentaire et un accélérateur dans votre parcours client. Et enfin, je vois aussi souvent une pression en réalité à monétiser tout ce qui vous passionne ou tout ce que vous apprenez. Et en fait, c'est pas parce que vous déployez de nouvelles compétences ou de nouvelles expérimentations ou autres que vous êtes obligé de tout monétiser. Il y a des choses que vous pouvez garder pour vous et il y a des choses que vous faites à côté de votre business qui vont venir nourrir votre approche, qui vont venir nourrir la manière dont vous allez illustrer peut-être vos contenus pour vos clients, vos différents angles d'approche, etc. Mais c'est pas pour autant que tout ça doit être monétisé ou doit faire partie de vos offres. Il y a aussi des choses que vous pouvez garder juste pour vous nourrir intellectuellement, juste pour le plaisir, juste pour avoir un hobby, juste pour votre culture générale. Donc, souvent aussi, quand je vois des clientes qui se précipitent vers l'écosystème d'offres, le catalogue d'offres ou la diversification d'offres, c'est parce que dès que j'apprends un truc, je me dis que je pourrais le monétiser. Et en fait, ben ça, vous voyez, justement, c'est quelque chose aussi quand on a une offre unique, que du coup, quand on apprend quelque chose, on voit comment on va pouvoir mettre ça au service de notre offre qui existe déjà, peut-être parfois dans la pédagogie, peut-être parfois dans le coaching, peut-être parfois dans le partage d'expérience, etc., peut-être dans le contenu, dans le marketing. Mais du coup, on s'empresse pas forcément d'aller créer un nouveau produit parce que on a appris quelque chose de nouveau ou parce qu'il y a quelque chose d'autre qui nous passionne. Donc je trouve que c'est l'avantage aussi quand on a une offre unique de se détacher de cette pression à tout monétiser, mais au contraire de plutôt renforcer finalement notre expertise, la pédagogie de notre programme, etc. grâce à notre propre chemin d'évolution en parallèle, entre guillemets, de cette offre-là. Donc voilà, j'en ai terminé sur le dilemme entre offre unique ou plusieurs offres. J'espère que ça t'aura éclairé sur ce sujet. Évidemment, moi qui aime le business solo, le business qui me permet et de faire du chiffre et d'avoir du temps et d'avoir un beau life balance et de pas avoir à gérer d'équipe et d'être très agile et très flexible, clairement pour moi c'est l'offre unique. Je vais pas dire pour toujours parce que voilà, on sait jamais, il y a des choses qui peuvent toujours évoluer, mais en tout cas voilà, je suis convaincue, enfin pour moi, de ça, jusqu'à atteindre notre objectif de revenu et après, pourquoi pas s'amuser. En tout cas, je serais ravie, suite à l'écoute de cet épisode, que tu viennes me dire si t'es plutôt du coup offre signature ou si t'es plutôt team offre signature, pardon, ou team catalogue d'offres. Peut-être aussi que cet épisode t'a fait changer d'avis ou t'a apporté un nouvel éclairage. N'hésite pas à venir me le partager. Ou encore, si pour toi c'était pas un dilemme, mais qu'il y a un autre dilemme business qui te challenge et que t'aimerais que je traite ce nouveau dilemme dans un futur épisode, bah, n'hésite pas à venir me voir en DM sur mon compte Instagram @CécileFuselier pour venir me partager ce dilemme et peut-être que je le retiendrai pour un prochain épisode de podcast. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien.